Bienvenue sur le podcast Écrire pour soi, où on parle d'écriture et de motivation. Je m'appelle Camilla Morel et je suis autrice de romans imaginaires et libraire. Dans ce podcast, je souhaite vous appuyer dans l'écriture de votre roman, mais surtout vous aider à avoir confiance en votre écriture. Vous pouvez me retrouver sur Écrire pour soi chaque semaine pour faire le plein de motivation et d'assurance, mais aussi sur le Instagram Camilla Morel avec un zéro pour le haut. Le point d'honneur du podcast, trouver le plaisir dans sa passion, en se déculpabilisant. Et maintenant, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine et que ça se passe bien pour vos projets. Cette semaine, on se retrouve pour le deuxième épisode Méthode d'écriture et cette fois, on va parler avec Sarah du compte Sarah Bookin sur Instagram. Donc, on va en apprendre plus sur elle, son parcours avec l'écriture, mais aussi sa méthode. Donc, j'ai très, très hâte de parler de ça avec elle et je suis très emballée. Comment ça va, Sarah?
Ça va super, merci pour l'invitation.
Ben, ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter?
Ok, l'étape difficile.
Ouais.
du coup, je m'appelle Sarah Abbassi, j'ai 23 ans et quand je ne suis pas en train d'écrire des romans, je suis étudiante en ostéopathie. Et voilà.
Super, parfait. Est-ce que tu peux nous pitcher ton projet La Tisseuse de Mélodie que tu es en train de travailler en ce moment? Question encore une fois difficile.
C'est une question difficile, je vois. Alors, du coup, La Tisseuse de Mélodie, c'est déjà une fantasy young adulte qui se passe dans un univers où la musique est magique et où des dieux règnent sur des royaumes en cédant chaque dieu à un pouvoir et cède son pouvoir à une personne, 50 personnes dans chaque royaume. Et on suit du coup la vie de Shona, qui vit dans le royaume de Solvara, gouvernée par le dieu Sol, qui est le dieu du destin. Et elle a été touchée par ce don dans son enfance, donc par le don du destin, et depuis environ l'âge de 7 ans, elle vit enfermée avec 49 autres jeunes femmes qui possèdent ce don dans un lieu, dans un espèce de cloître religieux. Et là-bas, elle a le don du destin, et là-bas, elle va tisser ce qu'on appelle les mélodies du destin, qui est l'avenir, en fait, de chaque personne dans le royaume. Le jour où elle entrevoit son propre destin, où elle se voit tuer le roi, son avenir bascule, elle est obligée de fuir parce qu'elle est accusée de trahison, et elle va devoir parvenir à dénouer les fils de sa destinée pour comprendre le pourquoi, du comment, et ça en travaillant aux côtés d'un jeune musicien aristocrate. Voilà.
Ok, trop cool. Je connaissais le concept du fait que la magie... la musique est magique, mais je connaissais pas tout le résumé, donc je trouve ça vraiment cool. Ouais, ça m'intéresse beaucoup.
Merci.
C'était quoi ton parcours avec l'écriture? Depuis quand t'écris? Comment t'as commencé? Tout ça?
J'ai envie de dire que j'ai à peu près toujours écrit. J'ai commencé vraiment à écrire des romans, j'avais 10 ans, mais avant ça, j'écrivais déjà des petites histoires sur des morceaux de papier à l'école quand on me disait qu'il fallait écrire des petites histoires comme ça. J'étais trop contente et je pense que j'ai toujours écrit. Et avant ça même, j'aimais beaucoup jouer au Playmobil, tu sais. Donc il y avait toujours cette image de créer des histoires. Et quand c'était pas à l'écrit, c'était avec des Playmobil. Et du coup, voilà, je me suis rapidement mis à l'écriture quand j'arrivais, entre guillemets, plus à jouer avec des jouets. Et depuis, j'ai pas arrêté d'écrire.
Ah je trouve ça trop cool parce que moi aussi, j'avais des Playmobil.
Toi aussi, les Playmobil.
Ouais. Et je faisais des histoires. Puis des fois, je mettais comme 2 jours à juste placer les Playmobil, faire des constructions, whatever. Et c'était vraiment cool.
Ouais.
À part ça, c'est quoi tes aspirations avec l'écriture? C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu espères faire avec tes romans?
Déjà, les publier. C'est vrai que j'ai un rêve, j'ai ce rêve depuis quelques années maintenant. Et au-delà de ça, c'est arriver à toucher le public, surtout avec les thématiques de mon roman actuel. Je pense que c'est ça, on va dire, à la petite échelle, à une échelle qui me déjà paraît énorme, même si elle est petite. Maintenant, si on me demande après de rêver encore plus grand, j'aurais envie de te dire les traductions, parvenir à bien vivre de l'écriture, même si je ne pense pas que faire ça de ma vie. Et voilà.
Ouais, je comprends. Il y a comme, on dirait, le step déjà hyper haut de publication, ouais. Puis après, c'est ça... comme... Wow! Ça paraît inatteignable. À part ça, on va comme rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu t'inspires beaucoup de tes lectures, de jeux vidéo, de films, séries, peu importe?
Je pense que oui, il y a une partie qui est très inconsciente. Et justement, j'ai fait un post hier sur ça, de mes inspirations, et que je me suis rendu compte, en fait, après avoir commencé l'écriture, qu'il y avait quand même des petits clins d'œil à mes univers préférés. Et je pense que oui, d'abord mes lectures avant tout, et à mon avis aussi la réalité, parce que j'ai fait beaucoup de parallèles entre mon roman et ma vie. Des petits clins d'œil sur le nom des personnages, ce genre de choses, tu sais, et des personnages qui ont des noms proches de personnes qui existent vraiment dans ma vie, qui ont le même caractère, et je me dis, mais c'est fou, c'est totalement inconscient. Mais je pense que c'est inconscient, mais c'est présent quand même. Et donc j'aurais tenté de dire oui, grosse partie inconscience, et après oui, je fais des clins d'œil volontairement. Là, par exemple, dans mon roman, il y a un clin d'œil volontaire à Sorcery of Thorns, sur un petit truc. Mais ouais, sinon j'aime bien m'inspirer de ce qui m'entoure.
Ben c'est cool, tu fais comme des petits easter eggs.
Ouais, c'est ça.
À part ça, est-ce que tu as l'habitude de te mettre la pression en écriture, peu importe l'étape? Est-ce que tu es capable d'écarter le stress pendant que tu écris? Ou tu penses peut-être à la vie des gens, peu importe?
À full stress, moi. Ah, vraiment? Mais c'est assez récemment que j'ai commencé à mettre la pression. Je pense depuis que je suis arrivée en fait sur Instagram.
Ok, puis est-ce que c'est même à partir du premier jet de la planification?
Non, pas forcément. J'ai toujours écrit en fait sans poser trop de questions, sans avoir de stress particulier. Et là, je pense que c'est plus récemment où je me suis dit, j'ai envie d'être éditée. Et je trouve qu'avec ce souhait, avec ce rêve, vient tellement de pression. De... Oui, déjà, comme tu disais, déjà de penser au retour des lecteurs, alors que je n'avais même pas fini mon roman. Et après, de penser à ce qu'un éditeur pourrait penser, etc. Est-ce que le roman est assez bon? J'écris pas assez vite? Tu vois, beaucoup de questions qui sont source de stress.
Ouais, ben ça fait peur, la vie des gens et surtout la vie des éditeurs. Et je pense que, comme tu dis, quand t'as le rêve de te faire éditer en ME, ben inévitablement, tu vas penser à comme chaque péripétie, chaque pivot de ton histoire en te demandant si c'est assez bon, si ça correspond aux attentes et tout.
Ouais, si ça va plaire.
Ouais, je comprends. Ouais. Puis, tu disais, surtout depuis que tu es sur Instagram, est-ce que tu penses que ça a même augmenté depuis le moment où tu as commencé à parler de ton projet, en fait, sur les réseaux, ou pas forcément?
Je pense pas. Je pense qu'au contraire, ça m'a aidée parce que j'ai l'impression d'être vachement bien accompagnée par ma communauté qui est très derrière moi à, du coup, vouloir lire le roman, mais au-delà de ça, à me pousser pour que, justement, j'ai moins de pression, pour que je me prenne moins la tête, pour que je me pose moins de questions. Et c'est vrai que du coup, cette question autour de est-ce que les lecteurs vont aimer, et que c'est vrai que quand je fais des posts sur mon roman et que je vois que j'ai tellement d'amour et de personnes qui me disent que c'est totalement ce qu'ils aiment, etc., je trouve que ça. Il y a quand même un soulagement de se dire, eh bien, même s'il y a 3 personnes qui aiment, eh bien, ce sera 3 personnes, mais ce sera déjà génial.
Ouais, ben tant mieux si ça te donne du positif plutôt que du négatif.
Ouais.
Puis en général, est-ce que tu préfères travailler seul ou est-ce que t'aimes ça travailler avec d'autres gens pour brainstormer, premier jet, peu importe?
J'avais l'habitude de travailler plutôt seule, et là plus ça va, et plus je me rends compte que j'ai du mal à rester sérieuse, entre guillemets, si je suis toute seule. Genre rapidement, par exemple, j'écris beaucoup dans mon lit, et très rapidement, tu vois, je laisse l'ordi de côté, et puis je me regarde une série. Alors que c'est vrai que quand je fais des appels avec d'autres autrices pour qu'on se motive à faire des rushs, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile pour moi.
Je comprends totalement, c'est pareil pour moi aussi, même si je travaille sur mon bureau tout le temps, on dirait que j'ai le réflexe d'aller sur Instagram, d'aller faire n'importe quoi d'autre sans même m'en rendre compte. Donc quand t'es avec quelqu'un... Comme ça, ouais, c'est ça.
Divague. Tout
seul. Exactement. Après ça, on peut rentrer dans la partie planification. Est-ce que toi, tu planifies tes romans ou est-ce que tu les as déjà planifiés? Est-ce que ta méthode a évolué avec le temps?
Ouais, elle a carrément évolué, mais je pense que c'est plus lié au projet qu'une évolution vraiment. Avant, je planifiais rien du tout. J'écrivais vraiment, entre guillemets, au talent, entre gros guillemets. Juste, je me laissais porter et j'aimais bien me laisser surprendre aussi par mes idées sur le coup. Et avec la tisseuse de mélodie, je me suis rendu compte, est-ce que c'est aussi l'envergure du projet, première fantasy avec quand même une intrigue politique, etc. Donc quand même quelque chose qui peut-être était trop gros pour moi dans l'immédiat. Je me suis rendu compte que je devais planifier. Donc, j'étais obligée de passer d'une jardinière à une architecte.
Ok, parce qu'avant, tu écrivais d'autres types d'histoires?
Ouais, j'étais plus dans de l'urban fantasy.
Ok, ok. Puis celle-là, c'était un projet de trop grande envergure.
est-ce que tu arrivais devant ton premier jet, puis tu te disais c'est impossible, puis là c'est là que tu as commencé le plan?
Ouais, c'est ça. C'est que j'ai commencé à l'écrire sans plan, comme okay. Je suis d'habitude dans me laissant porter. Et quand l'intrigue dans ma tête, elle s'est un petit peu plus cristallisée, elle s'est, comment dire,
concrétisée.
Ouais, quand j'ai vraiment commencé à voir où je voulais aller, je me suis dit wow, mais en fait ça me dépasse trop. Je veux faire quelque chose, mais je peux pas y arriver sans faire de plan parce que je suis censée cacher des indices, etc.
Ouais.
Et le monde était tellement vaste, il y avait tellement de choses à travailler, mais du coup le world building à intégrer, j'étais en mode waouh, il faut que je m'arrête, il faut que je fasse des fiches, il faut que je comprenne mieux mon univers, il faut que je voie quel indice se met où. Et en fait, c'est vraiment plus c'était une nécessité qu'une volonté.
Ok, puis t'as planifié comment, avec quel outil, de quelle façon?
Je tâtonne encore le terrain, pour le coup, parce que okay. j'ai encore du mal, du coup, là, par exemple, sur la planification du tome 2, et comme c'est pas naturel, je suis en train de regarder un petit peu ce qui me va. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de brainstorming, déjà, sur une feuille, à mettre toutes mes idées à l'écrit, et puis après, à me dire, est-ce qu'il y en a qui vont un petit peu bien fonctionner entre elles. Et souvent, mes idées créent des questions. Et du coup, il faut que je réponde aux questions qui sont liées aux idées. Et du coup, c'est un petit peu comme ça. Je me dis, OK, donc ça. Il y a une question qui se pose si je garde cette idée. Donc, il faut que je réponde à cette question. Et quand je réponds à cette question, je me dis, ah, ben, j'ai une nouvelle idée. Donc, au début, c'est vraiment plus, vraiment, je pose toutes mes idées quelque part. Et après, je me vois comment je pourrais les ordonner. En d'abord, grands événements. Et après, quand j'ai un petit peu la structure... avec les plot twists, les grands événements de l'histoire, quoi. Là, je vais me dire, OK, comment mon personnage, il va arriver à se développer au travers de ça? Qu'est-ce qu'il va penser? Comment il va évoluer? Et donc, j'essaie de mettre en place des événements qui puissent montrer l'évolution. Pareil, quand j'ai encore des trous, je vais me dire, OK, là, ce qui serait intéressant, c'est de continuer à développer le world building. Est-ce que je peux pas rajouter un événement qui va se passer dans un lieu qui va montrer le world building? Et c'est comme ça, en fait, que j'arrive un petit peu à compléter ma ligne directrice avec tous mes événements.
OK, parfait. Donc, tu fais ta planification au début sur une feuille. Est-ce qu'après, tu fais un propre quelque part?
Non, pas vraiment.
OK. Puis, est-ce que tu utilises des carnets ou vraiment des feuilles volantes?
C'est plus des feuilles volantes. Et les carnets, j'ai des carnets et j'ai commencé sur un carnet. Mais je trouve que la difficulté avec les carnets, c'est que j'avais tellement d'idées au départ que... Avec le recul, maintenant, quand je rouvre le carnet, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai envie de conserver, qu'est-ce que j'ai laissé, qui je vais peut-être me réutiliser plus tard. Et comme c'est plus actuel, en fait, je me perds. Alors que l'avantage, entre guillemets, avec les feuilles volantes et les post-it, c'est que du coup, ça me plaît pas, et bien je jette, et là, je prends le post-it et je change de place, etc. C'est beaucoup plus facile, je trouve.
Ouais, je comprends. C'est pour ça un peu que j'utilise Miro, parce que c'est des post-it que tu peux déplacer comme tu veux. Mais comme toi, moi, je suis sur des feuilles au début pour me poser plein de questions et tout. Donc, je comprends. Donc, tu te serais qualifiée de jardinière avant et là, maintenant, t'es plutôt architecte ou t'aimes mieux te placer dans rien?
Non, je dirais quand même architecte parce que là, c'est vraiment plus carré ce que je suis obligée de faire. Donc,
Parfait. Super. Ben, t'as un peu déjà répondu à toutes mes questions. Je voulais te demander si ta méthode pourrait évoluer dans le futur selon toi aussi. Par contre, est-ce que tu penses que... Ben, en fait, est-ce que t'as des idées de projets spécifiques pour le futur et est-ce que tu penses que pour ces idées-là, tu planifierais aussi?
Je pense que maintenant que je me suis vraiment lancée dans la fantasy, parce que du coup, l'urban fantasy, ça avait un petit peu un côté plus facile puisque comme on s'ancre dans un cadre qui est réel, il y a beaucoup moins de choses à mettre en place. Puisque c'est la réalité, donc il y a le fonctionnement de base des choses que j'avais pas à créer. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais pas besoin de planifier, et maintenant que j'ai vraiment le courage de me lancer en fantasy, c'est ce que je voulais faire depuis des années, mais j'avais un petit peu peur, je pense que je me suis rendu compte que la planification, c'était beaucoup mieux et beaucoup plus facile, surtout à la réécriture. Je me rends compte là que l'état de mon premier jet planifié et l'état de premier jet de roman précédent où j'avais écrit que vraiment comme une jardinière, mais c'est tellement différent. Et je me rends compte que j'ai moins de travail à faire à la réécriture. Et que même dans ma tête, le projet est tellement plus clair que c'était le cas avant. Donc là, je pense que je vais essayer de devenir architecte. Après, peut-être que du coup, ça sera selon les projets. Je verrai que selon les projets, je planifie plus ou moins.
Ok, je comprends. Puis comment il se passe tes premiers jets?
C'est-à-dire?
Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que tu... t'as du mal avec cette étape?
J'ai du mal.
Ok.
Beaucoup de mal, c'est un petit peu le côté perfectionniste, tu sais. T'as envie de faire tout propre dès le début, et pourtant tu sais que tu dois te concentrer sur le fond et juste écrire sans revenir en arrière. Et moi j'adore tellement prendre 3 heures pour faire une belle phrase, et je sais qu'il faut pas. Et du coup je me force à pas le faire parce que sinon je mets 4 ans à écrire un roman et je pense que je vais mal le vivre. Donc je sais qu'il faut que je me force à écrire entre guillemets vite sans me soucier vraiment de la forme. C'est vrai, du coup ça crée beaucoup de frustration parce que je suis pas satisfaite de ce que je fais.
Je comprends. Puis est-ce que t'es team fonceur ou est-ce que tu reviens en arrière souvent? Je pense que tu te réfrènes peut-être de faire ça.
Ouais, ouais, il y a totalement la volonté de revenir en arrière. Ouais. Mais surtout là, quand j'étais sur la fin de mon premier jet, il a fallu que je me dise, ok, là t'es en vacances, t'es obligé d'écrire, t'es obligé de finir, il te reste un tiers du roman à plier. Je me suis laissée 3 semaines et là, je me suis dit, tu regardes la ligne dessus en fait.
Je comprends. Puis à ce moment-là, t'écrivais beaucoup dans ta journée. Est-ce que t'avançais vite selon toi? Comment ça s'est passé pendant ces 3 semaines-là?
J'écrivais toute la journée et je pense que ouais, j'ai avancé super vite. J'écrivais. Il faut savoir qu'en général, déjà, j'écris pas tous les jours. Et quand j'écris, comme je suis pas quelqu'un qui aime me prendre la tête et je suis vraiment une autrice lente, j'écris peut-être max 1000 mots dans la journée. Et déjà, 1000 mots, c'est un gros chiffre, tu vois. Donc là, quand je faisais des journées à 3000, 4000 mots, c'était surréel.
Ouais, je comprends. Super. Puis, pour la relecture, est-ce que tu relis ton roman en entier avant d'entrer en réécriture? Et est-ce que tu prends une pause avant la relecture?
En général, non, j'aime pas trop relire en entier. Puisque je sais qu'entre le début, ce que j'ai écrit, et la fin, il s'est écoulé assez de temps pour que j'oublie certains détails. Et je trouve ça bien justement d'oublier des éléments et de pas se les remettre en tête pour avoir l'esprit plus clair vraiment quand je vais planifier, entre guillemets, planifier ma réécriture. Je me suis rendu compte que j'aimais bien justement laisser du temps pour avoir le temps d'oublier ce que j'avais fait et pour me rendre compte que j'ai énormément changé entre le début du roman et la fin, et enfin la moi d'après. Et c'est ce qui me permet justement, cette prise de recul qui me permet de dire, ok, maintenant je vais essayer de raconter la même histoire, plus ou moins, mais plus efficacement et avec plus de, entre guillemets, logique, enfin, voilà, d'une meilleure manière. Et ça, j'y arrive que si j'ai le recul donc si j'ai laissé du temps entre la fin du premier jet et la réécriture, et si en général, j'ai pas relu le premier jet.
Ok, donc tu vas relire quelques chapitres du début, puis tu vas réécrire au fur et à mesure, si je comprends bien?
Même pas. Alors là c'est vraiment la thèse de Mélodie. Là, je me suis dit qu'il fallait que je commence à le réécrire cet été, donc c'est vraiment une exception. En général, je relis même pas le début. Je garde les idées, je garde ce que je me souviens, et je réécris avec ce que je me souviens. Parce que ma première réécriture, j'ai eu le souci de me dire, quand j'ai appris que les réécritures, en fait, ça existait, enfin, je l'ai pas appris, mais je me suis rendu compte que je voulais reprendre le roman parce qu'il me correspondait plus trop. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de mal à me détacher de la version que j'avais déjà écrite. Je me suis dit, mais en fait, je verrais pas comment ça pourrait se passer autrement. Et j'étais tellement trop attachée en fait à la version et à la succession des événements que c'est comme ça que je me suis dit, ben, pour arriver à vraiment à prendre du recul sur ça, il faut que j'arrête de relire ce que j'ai déjà fait et essayer vraiment de me lancer dans une nouvelle version sans prendre en modèle la version précédente parce que sinon je vais être tentée de calquer ce que j'ai déjà fait.
Ok, mais je comprends ce que tu veux dire, ça me fait un peu cet effet-là. Mmh. On dirait que sans brainstormer avec d'autres gens, j'ai du mal à concevoir d'autres possibilités que ce que j'ai écrit. Donc je comprends
totalement. C'est super dur. C'est super dur d'arriver à se détacher d'un projet sur lequel tu as possiblement passé 1 an, 2 ans et tout, et te dire maintenant il faut faire la même chose, mais encore mieux et différemment. T'sais. Comment ça?
Ouais, c'est ça. Changer le chapitre, parce que dans ma deuxième réécriture, justement, il y a des trucs qui... enlever, remplacer, tu sais, c'est vraiment du gros travail. Et même en deuxième réécriture, donc c'est quand même fou. Donc, t'as pas de méthode de relecture, si je comprends bien, t'as pas comme de notes que tu prends, quoi que ce soit?
Non, pas vraiment. Mais vraiment encore, c'est vraiment, moi, je suis vraiment un mauvais exemple, parce que là, comme c'est un projet particulier, du coup, j'essaie de nouvelles méthodologies, et là, la relecture, je me suis dit... j'ai plus voulu me concentrer sur les incohérences, parce que par exemple, je fais des descriptions d'un personnage d'une manière au chapitre 3, et au chapitre 30, c'est plus la même chose.
Ok, je comprends. Donc, c'est mieux de les régler, effectivement.
Ouais. Donc là, du coup, j'avais commencé à un petit peu relire en diagonale pour voir où étaient les descriptions des personnages, les surligner, mettre un petit post-it sur le côté pour retrouver plus facilement. Okay. Me dire, ok, là, t'as décrit ça et ça de telle manière, maintenant, mets-toi d'accord. Et je fais pareil aussi sur tout ce qui va être temporalité, parce qu'à un moment donné, je dis c'était il y a 4 ans, puis après, je dis c'était il y a 6 ans, pour rester cohérente, voilà.
Ok, parfait. Puis, est-ce que tu as déjà fait appel à des bêta-lectrices et pourquoi?
Ouais, sur chacun de mes projets. Et c'est fou parce que je ne sais pas du tout pourquoi un jour je me suis dit j'ai envie de le faire lire pour avoir des retours. Je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que maintenant, je le fais constamment et ça m'aide énormément parce que justement, cette fameuse prise de recul qu'on parlait, je trouve qu'elle est beaucoup plus facile quand tu as quelqu'un qui te lit et qui te pointe aussi ce qu'il a pensé. De se dire, ah, mais là, je trouve que, tu vois, c'est assez facile ce que tu es en train de créer. Je pense que tu devrais un petit peu modifier ça. Et c'est vrai qu'après, moi, je vais me dire, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'étais pas arrivée à moi-même mettre le doigt dessus, mais tu le formules d'une telle manière que ça me parle. Et c'est comme ça que beaucoup de fois, je vais arriver à me dire, mais sans ces bêta lecteurs, je serais pas parvenue à me dire qu'il y avait des possibles soucis dans mon intrigue.
Ouais, mais comme tu disais tout à l'heure, on a du mal à avoir le recul sur notre propre projet parce qu'on est vraiment dedans. Puis des fois, c'est même si on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vraiment dur de mettre le doigt dessus, comme tu dis.
Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est l'événement qui se passe? Et c'est vrai que les lecteurs, pour ça, c'est vraiment génial. Après, ça reste subjectif, bien sûr, mais de toute façon, c'est comme tout lecteur.
Mm-hmm. Ouais, c'est sûr. Puis c'est quoi ton rapport à cette étape-là? Est-ce que à chaque fois t'as hâte? Est-ce que t'as peur?
Plutôt hâte. Plutôt hâte parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup me nourrir des avis des autres. J'ai pas peur de la critique. Après j'ai toujours eu des critiques constructives. Peut-être le jour où on fera une critique violente, ça changera. Mais j'ai jamais eu en tout cas cette mauvaise expérience qui aurait pu se produire. Mais comme à chaque fois ça a toujours été constructif et même au quotidien j'aime beaucoup avoir des avis sur ce que je fais et pouvoir m'améliorer. La simple, en fait, idée que je pourrais rendre mon roman meilleur, ça me plaît énormément. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'adore la réécriture. C'est vraiment cette idée de je peux faire en sorte que mon roman soit meilleur.
Ouais, je le vois un peu comme ça aussi pour les bêta lecteurs. Puis, est-ce que tu fais appel à des amis à toi? Est-ce que c'est tout le temps les mêmes personnes?
Ouais, plus ou moins. Okay. C'est plutôt des personnes que je connais. Parce qu'il y a aussi la confiance aussi de laisser son texte à quelqu'un. Et puis en plus, c'est des personnes à qui je le laisse, je sais que leur avis sera impartial. C'est pas parce qu'on est amis qu'elles vont me caresser dans le sens du poil, quoi. Brosser dans le sens du poil. C'est
plus ouais. Que, ouais. Ouais, je pense que oui.
du coup, je préfère faire ça. Et puis, je pense que comme c'est tout le temps à peu près les mêmes personnes, ce qui est aussi intéressant, c'est que... Elles, parce que c'est des filles, du coup, voient un petit peu l'évolution et sont aussi capables de me pointer du doigt, me dire, mais ça, par contre, Sarah, t'as l'habitude de le faire dans tes romans, fais attention, parce que c'est comme un schéma que t'as l'air de reproduire, fais attention à ça. Je trouve ça assez intéressant.
Ouais, puis comme c'est tes amis ou des gens que tu connais, j'imagine aussi c'est plus... ça fait moins peur, parce que tu te dis, bon, ils vont être bienveillants avec moi, t'sais, ils vont pas être violents, justement, dans leur retour.
Je pense pas forcément.
Ok.
Parce que j'étais sur Wattpad pendant quelques années et là tu laisses ton texte à n'importe qui, quoi.
Ouais.
Faut être prêt à prendre des retours, peu importe comme ils sont. Donc je pense que c'est pas tant la peur des retours, mais c'est plus la confiance de laisser son texte à quelqu'un que tu connais. J'aurais peur de laisser mon texte à quelqu'un que je connais pas et me dire mais qu'est-ce qu'il va en faire.
C'est plus pareil.
Ça. Ouais.
Ok. Puis maintenant, on va parler de la réécriture qui est, si je comprends bien, ton étape préférée.
Ouais.
Parfait. Est-ce que tu la planifies et comment, si c'est le cas?
Moi, je la planifie pas trop, parce que de base, je reste quand même une autrice jardinière. Mais c'est vrai que je vais faire un résumé détaillé de mon roman, de ce dont je me souviens. Et après, je regarde un petit peu ce qui me plaît, ce qui me plaît moins. Et je me pose des questions, du coup, sur... comme je sens que j'ai évolué, qu'il y a des choses qui ne me correspondent plus, j'arrive plus facilement en fait, à les pointer du doigt parce qu'il y a un laps de temps qui s'est passé. Et donc après, je vais me poser la question, je vais dire ça, ça me plaît pas, comment je peux le changer? Par exemple, un début qui est trop lent, ok, là je me rends compte avec le recul que c'est trop lent, je vais essayer de trouver une manière de rendre ce début plus facile, de rendre ce début plus rapide. Pardon. Et c'est comme ça, en faisant plein de petites remarques, que je vais au fur et à mesure essayer d'étoffer ce résumé détaillé, qui reste quand même un résumé de max 2 pages, quoi. Ce qui fait que quand même, quand je reprends la réécriture, en général, comme je suis quand même un petit peu jardinière, je reprends des libertés, et c'est vrai que ça ne correspond plus trop au résumé détaillé. Mais j'ai quand même cette sensation de nécessité quand même de me dire, là c'est la réécriture, tu es censé faire quelque chose de plus propre, de mieux construit. Donc il faut que tu te serves un petit peu de tes erreurs précédentes pour faire quelque chose qui est meilleur.
Donc tu fonctionnes beaucoup à l'intuition, si je comprends bien.
Ouais, je pense.
Parfait. Puis tu disais, tu fais un résumé sur 2 pages. C'est vraiment un résumé comme pas séparé en chapitres, donc c'est ça?
Non. Ouais, c'est un résumé vraiment un style synopsis en fait.
Ouais, je comprends. Ok, parfait. Puis bon, ça, tu m'as déjà dit, t'apprécies la réécriture. C'est parce que t'arrives à embellir ton roman?
Ouais, c'est parce que. Mais forcément, je pense que je le rends meilleur, enfin j'espère, sinon ça serait bête. Mais comme après, de base, en étant jardinière, c'est assez le chaos quand j'écris un roman et que je ne sais pas trop où je vais. La réécriture, c'est le moment où j'ai l'impression que tout est plus clair. Et je sais, je suis parvenue à pointer du doigt plus ou moins ce qui n'allait pas. Et je sais que c'est vraiment l'étape où je vais pouvoir à la fois m'amuser en rendant le tout meilleur, en prenant le temps de reprendre et de faire des belles phrases. Souvent aussi en rajoutant des petits détails de l'univers, parce que le world building, c'est ce que j'aime le plus. Et donc je pense que c'est un petit peu cette vision d'essayer de rendre meilleur et de rendre meilleur vraiment qui me plaît.
Je comprends. Est-ce que tu as une routine ou des habitudes qui t'aident à te motiver à te mettre devant ton ordinateur pour écrire, ou est-ce que tu n'en as pas trop besoin?
Pas du tout. Vraiment, je suis censée être cette autrice qui s'y met quand elle a envie. Maintenant, j'essaie de travailler avec plus de rigueur. Donc souvent, c'est le début qui est difficile. Après, ça, c'est comme les devoirs à l'école, tu sais, il faut se pousser, s'y mettre devant. Et après, par contre, une fois que je suis devant, j'ai du mal à arrêter. Donc l'étape la plus difficile, ça va être vraiment de m'y mettre. Ouais. Mais je sais qu'une fois que je suis dedans, là, je fuse.
Mmh. Je comprends. Et je voulais te demander aussi, entre le premier jet et ta réécriture, est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements?
En général, plutôt. Parce okay. que ma réécriture, quand je la fais, c'est pas juste je rajoute des choses, c'est je prends un nouveau document et je réécris tout, en fait. Je réécris le roman de A à Z. Et ce qui fait que, des fois, j'ai tendance à dire que je dissocie les romans parce que parfois, c'est même plus pour moi la même histoire. Donc je pense que oui, il y a des énormes changements. Mais ça, encore une fois, c'est l'effet jardinière pour moi. Là, avec la tisseuse de mélodie et le côté plus architecte, je sais qu'il ne va pas y avoir des énormes changements. La ligne directrice va changer, même si j'ai des choses à préciser, des informations à rajouter. Mais vraiment, la base, pour moi, elle est plutôt vraiment, enfin, entre guillemets, plutôt, je pense, un petit peu solide. Voilà.
Ok.
je pèse mes mots parce que...
Super. Donc, pour la tisseuse de mélodie, c'est un peu différent de tes autres projets à cause de la planification.
C'est ça, ouais, ça a tout changé.
Ok, parfait. On passe à une autre catégorie qui est un peu différente de celle sur la méthode. Je voulais savoir, si tu avais la confirmation que personne ne lirait jamais tes textes, penses-tu que tu écrirais différemment?
Oui, je pense. Déjà, je pense que j'écrirais d'autres histoires.
Ok.
Et, bah après, c'est différent. Et par exemple, pendant le challenge de Molanta, justement, j'avais écrit une fanfiction sur le Dark League, chose que je ne pensais jamais capable de faire. Et ça, je sais justement que c'est parce que ça va être que pour moi et que jamais je ferai lire. Mais c'est vrai que je pense que si je ne ferais jamais lire mes projets, ce n'est pas parce qu'ils seraient moins propres ou quoi, mais je pense que je me ferais beaucoup plus plaisir à rajouter des informations, parce que j'adore le world building, vraiment étaler le truc. Okay. Par exemple, il y a des projets, j'ai fait des règlements intérieurs, des écoles et tout. Mais vraiment, c'est... Voilà, et je pense que je me ferais plaisir à mettre 3 tonnes de choses.
Ouais, puis là, dans le fond, tu le fais pas parce que t'as peur que ça ennuie le lecteur et tu veux pas non plus ouais, l'assommer rapport... d'informations.
Exactement, c'est plutôt pour le rythme, ouais.
Je comprends. Parfait. Puis, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux affectent ton écriture?
Oui. Oui, ça, je l'ai remarqué. Je trouve que ça affecte mon écriture puisque ça met déjà plus de pression. Depuis que je suis arrivée sur Instagram, j'ai la sensation que... En fait, le fait d'avoir découvert comment les autres fonctionnaient, ça m'a fait remettre en question mes propres méthodes. Ce qui, en soi, n'est pas forcément négatif. Mais par exemple, je me suis rendu compte en fait que j'étais une autrice lente et qu'il y avait vraiment des auteurs qui arrivaient à écrire des romans en un mois. Et la pression, je me dis, mais moi aussi, j'aimerais bien arriver à faire ça. Et je trouve que de s'ouvrir un petit peu sur le monde, forcément, tu te questionnes sur tes propres méthodes, à la fois positivement, parce que du coup, ça m'a fait réfléchir à comment parvenir à travailler de la meilleure manière, puisque j'ai peut-être pas la méthodologie qui était la meilleure possible pour parvenir à mes objectifs. Et à la fois, c'est une source de stress parce que même si on adore les gens qui sont autour de nous et même si on les admire beaucoup, je trouve qu'il y a quand même de la comparaison. Il y a toujours une comparaison qui se met en place et même quand c'est pas volontaire, je pense que c'est quand même présent.
Et par remise en question, tu veux dire ta remise en question de architecte versus jardinier ou est-ce qu'il y a même d'autres choses que tu as changées?
Je pense que oui, c'est vrai que déjà, ce côté architecte-jardinier, je pense que c'est Instagram qui m'a montré que c'était possible. Parce que c'est peut-être bête, hein, mais j'avais jamais pensé avant Instagram qu'on pouvait planifier un roman, tu vois. Et maintenant, ça me paraît stupide de dire ça. Parce que évidemment qu'on peut tout faire et de la manière qu'on veut. Mais je pense que déjà, il y a ça, oui. Et puis après, la méthodologie aussi de retravail d'un texte. Moi, je fonctionnais d'une certaine manière puisque j'avais jamais cherché des conseils, j'avais jamais lu sur le sujet. J'avais juste un petit peu tâté le terrain, voir ce qui me plaisait bien et je faisais à ma manière. Mais je pense que quand on essaye justement de se faire éditer, c'est pas qu'il y a une méthodologie adoptée, mais c'est que forcément que tu dois avoir un texte qui est beaucoup plus carré, beaucoup plus propre que si tu l'écrivais pour toi. Et ça implique justement de se poser énormément de questions et je pense que c'est Instagram qui m'a permis de faire ça, de me poser plus de questions et de m'interroger sur différents aspects de l'écriture que j'avais pas conçu peut-être avant.
Ouais, ben je pense qu'on est plusieurs à avoir appris qu'il y avait des réécritures en même temps. Ça a l'air ridicule aujourd'hui quand on y pense, mais c'est ça quand même là. Puis tu fais du très beau contenu sur Instagram, puis je voulais t'en parler un petit peu. Comment t'as tes idées? Qu'est-ce qui... Je saurais même pas comment formuler ma question, mais tu sais, quand tu parles de ton roman, je trouve que c'est toujours de façon intéressante. Comment tu planifies ces choses-là? Comment tu le vois, en fait? Si déjà, c'est clair.
Merci beaucoup déjà pour ce beau compliment.
Ça fait plaisir.
Et je sais pas, pour moi, c'est un petit peu comme une extension du world building d'un roman. C'est une étape que j'adore faire. Et la création de contenu sur Instagram, pour moi, c'est pas du tout une tâche, même si ça prend du temps. C'est vraiment, je fais tout le temps avec beaucoup de plaisir, surtout quand il s'agit de mon roman. Et comme j'ai énormément, constamment d'idées de romans, et pour moi, la création de contenu, c'est un petit peu pareil. Il y a toujours plein d'idées qui pop. Je me dis, ah, mais ça, je pourrais en parler de telle manière et de telle manière. Et je sais pas, c'est vraiment, ouais, comme, je le conçois vraiment comme le world building, à me dire, bah, dans mon roman, le world building, il fonctionne comme ça. Je pense que ça pourrait être sympa que, pour montrer aux gens un petit peu comment ça fonctionne, je pourrais mettre ça en place. Voilà.
Ok. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour les auteurs qui cherchent à communiquer sur leur roman?
Je pense que ce qui peut être assez intéressant, c'est d'arriver à montrer la singularité de chaque roman. Parce que chaque roman est singulier. Et même des romans qui ont l'air de se ressembler ne peuvent pas vraiment se ressembler puisque l'auteur a sa patte, a sa voix. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important de montrer sur les réseaux sociaux. C'est de montrer qu'est-ce qui fait que votre roman, en fait, est différent des autres. Par exemple, justement, dans de la fantasy, est-ce que votre roman, il a un world building assez particulier? Est-ce qu'il n'a pas une particularité qui serait intéressante de creuser et de montrer aux gens et de mettre en avant, en fait? Et je pense que c'est ces petits détails-là pour montrer que finalement, je me répète, mais que chaque roman est différent et de montrer en quoi le vôtre est différent et en quoi... Et en quoi, enfin, du coup, comment le mettre en avant par sa singularité. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Au lieu de... Je trouve qu'on a beaucoup de trends sur Instagram et c'est génial. Et parfois, ça fonctionne beaucoup parce que ça permet justement un petit peu de surfer sur la vague. Mais je trouve aussi que parfois, c'est intéressant de prendre du recul et de se dire, je vais tenter un truc totalement différent de ce qui se fait. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est pouvoir montrer ce que les autres ne font pas et pouvoir montrer en quoi votre roman vous appartient et que c'est vous qui êtes derrière. Il y a une dimension qui est assez personnelle aussi. Se dévoiler au travers de son roman, c'est pas toujours facile et je trouve pourtant que c'est super intéressant de suivre des auteurs qui se montrent qui ils sont au travers de ce qu'ils écrivent.
Mmh. Puis comme tu dis, quand on s'éloigne un petit peu des trends et tout, ben parfois on peut justement en commencer une sans même le vouloir, sans même s'en rendre compte, parce que je vois souvent des auteurs commencer de nouveaux concepts qui sont vraiment géniaux. Et c'est vrai que ça attire bien l'attention, je trouve. Mm. Selon toi, c'est quoi le meilleur côté des réseaux sociaux? Ou en tout cas dans ton expérience?
Moi, c'est les rencontres.
Ok.
Là, ça s'éloigne peut-être un petit peu de l'écriture parce que c'est pas forcément des rencontres d'autrices, mais c'est échanger avec des gens, puis les rencontrer en vrai, et puis voir que c'est assez fou parce que moi, j'ai du coup un groupe d'amis sur Toulouse, et en fait, on est toutes différentes les unes des autres. Et je pense que s'il n'y avait pas les livres qui nous reliaient, peut-être qu'on ne serait jamais rencontrés et peut-être qu'on n'aurait été jamais amis, tu vois. Et pourtant, on a des différences d'âge, parfois de plus de 20 ans, et ça fonctionne tellement, et on a toujours des choses à se dire. Et ça, je trouve ça vraiment magique, en fait, que les livres, que ce soit la lecture là ou l'écriture, puisque j'ai aussi des amies autrices, ça permet de rassembler les gens. Et Instagram, du coup, ça a permis de mettre ces gens-là en contact.
Très beau. J'adore. On a un dernier petit segment qui est le segment comptoir à potions pour l'instant. Je ne sais pas trop si je vais le renommer dans le futur, mais on va imaginer que j'ai différentes potions qui pourraient te permettre de sauter, par exemple, une étape du processus d'écriture, des choses dans le genre. Donc, si tu pouvais sauter une étape, quelle potion tu choisirais entre celle pour la planification, le premier jet, la relecture, la réécriture ou le synopsis?
Ah, c'est dur. Parce que la planification, je pense que c'est pour l'instant ce qui me fait le plus défaut. Parce que vraiment, j'ai encore du mal, c'est assez nouveau pour moi. Le premier jet, c'est l'étape que j'aime le moins. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est une étape super importante parce que c'est là où le squelette du roman, il commence à se dessiner. Et malgré que j'ai du mal à apprécier, je trouve que c'est une étape tellement importante. Et même dans la connaissance que j'ai des personnages, je prends tellement le temps de connaître mes personnages au travers du premier jet que je ne sauterai pas cette étape. Du coup, peut-être plus la planification.
Je comprends. C'est vrai que dans le premier jet, c'est là qu'on apprend à connaître nos personnages, notre univers et tout. Puis on découvre plein de choses, même si on planifie, je tiens à le dire. Parce que je suis architecte extrême, j'ai des fiches personnages de plusieurs kilomètres quasiment. Mais je connais quand même pas mes personnages avant de faire le premier jet, donc je suis vraiment d'accord. Et maintenant, si je t'offre une potion qui te permettrait de t'améliorer dans quelque chose, est-ce que tu choisirais celle pour les dialogues, les descriptions, les premiers chapitres ou les fins de roman?
Les descriptions, je dirais. Okay. C'est ce que j'aime le plus. Et après, ça dépend des descriptions de quoi. Mais par exemple, tout ce qui va être description de l'architecture, des vêtements, etc. C'est encore compliqué parce que j'ai une idée tellement précise en tête que ça demande d'avoir un vocabulaire et de faire beaucoup de recherches. Enfin, c'est un petit peu chiant, quoi, pas se mentir.
Ouais, j'aime pas trop faire des recherches perso. Ouais. Puis, est-ce que tu utilises des photos pour faire tes descriptions?
Oui, ça par contre, du coup, comme je suis pas normalement je planifie pas trop non plus normalement, en général, je fais plutôt ça au fur et à mesure. Par exemple, j'ai un château qui doit intervenir en lieu, et allez, pas, petite recherche internet. Et je vais regarder ce que moi j'imagine, et une fois que j'ai ce que j'ai en tête, je prends ces photos, je les mets sur mon document, parce que du coup je suis sur Scrivener, donc je les mets sur le côté du texte, et du coup je me base sur ça pour faire mes descriptions.
Ok, super. Puis si je pouvais t'offrir une potion qui rendrait toutes tes scènes d'un type quelconque meilleures, laquelle tu choisirais entre scènes d'amour, scènes d'action et de combat ou scènes plus profondes?
Les scènes de combat.
Mm.
Ouais, j'adore les scènes profondes, avec les envolées lyriques et tout. Mais les scènes de combat, c'est vrai que c'est pour moi ce qui peut-être est plus compliqué, et je pense que ça se ressent aussi dans mon écriture, parce que c'est très linéaire, et j'ai beaucoup de mal à montrer que ça, c'est très compliqué, je trouve, quand t'as deux personnes qui battent, de montrer qu'elles se battent, mais il y a des gens autour, il y a des trucs qui se passent, et tu vois, et...
Ouais.
Et je pense que j'ai l'impression que je suis trop habituée au film où il y a tellement de choses qui se passent dans une même image que j'ai envie d'essayer de reproduire ça à l'écrit, et pour l'instant, je suis pas satisfaite de ce que ça donne.
Mais je pense que c'est impossible aussi d'atteindre le niveau d'un film. Mais oui, c'est vraiment compliqué. Mm-hmm. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil, quoi que ce soit, à donner à nos auditeurs?
Je pense que le meilleur conseil en écriture, c'est d'écrire ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. Mm-hmm. Je pense que c'est comme ça, à la fois qu'on lâche pas un roman et qu'on va au bout. C'est à la fois qu'on y croit, même quand c'est pas toujours facile. Par exemple, là, je pense aux envois maison d'édition, quand on a des refus. Quand on est vraiment attaché à un roman et qu'on a envie de le porter, on s'arrête pas au premier échec. Et c'est super important. Et au-delà de ça, je pense que le jour où le roman est édité, donc un peu plus l'après-vie, et ça arrive très souvent, même tout le temps, d'avoir des retours négatifs. Mais je pense que quand on a écrit un roman qu'on aime profondément et dont on est fier, c'est beaucoup plus facile d'accepter la critique. Enfin, je pense. Donc, je pense que le meilleur conseil le meilleur conseil pour moi en écriture, c'est d'écrire un roman qu'on aime profondément.
Ben, ça marche très bien avec le titre du podcast. C'est parfait.
C'est vrai.
Ben, merci beaucoup, Sarah. J'étais très contente de te parler aujourd'hui. Très intéressant, toute ton évolution dans la méthode et tout.
Merci à toi.
Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée à toi.
À toi aussi.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou à me contacter sur Instagram pour en discuter. Je poste là-bas très régulièrement et vous pourrez y retrouver du contenu sur l'écriture, la productivité, la lecture et la motivation. Nous nous retrouverons pour un nouvel épisode très bientôt. Jusque-là, j'espère que vous prendrez du plaisir à écrire pour vous.